Alors demain 8 mai, c'est un jour important pour les raisons qu'on sait, restons historiques, républicaines évidemment. Et pourtant, ce 8 mai 2023 intervient dans un contexte assez particulier parce qu'on est là sur une cérémonie somme toute assez formelle, très solennelle. Il y aura, je ne sais pas s'il y aura des chrysanthèmes, mais en tout cas il y aura des fleurs certainement, alors que le débat sur les retraites, ça n'est pas terminé. William
non, non, et puis... Autant je comprenais la commémoration du 8 mai, enfin, il faut le commémorer chaque année, évidemment, mais ça avait du sens avec les années qu'on avait vécues, notamment avec la crise sanitaire. Notamment, la crise sanitaire nous a obligés à faire des sacrifices individuels pour un objectif commun, soit le sens du 8 mai. C'était la victoire des Alliés et surtout de la France, celle du général de Gaulle et donc de la France des résistants. Là, maintenant, on est plutôt sur un objectif non pas collectif, qui est de se sacrifier individuellement en travaillant 2 ans de plus en vue de garantir notre système de retraite. C'est qu'on est sur une contestation forte des individus qui privilégient leur aspect personnel plutôt que le bien commun. Et donc, du coup, on est antagoniste avec les éléments du 8 mai. Et ce qu'Emmanuel Macron ne doit pas recontextualiser, notamment avec ce qui se passe en Ukraine, le retour du tragique en Europe. Donc, une menace toujours permanente sur le continent européen d'un potentiel autocrate. Sur le continent européen et l'ensemble des points que nous avons vécu pour redonner du lien en fait à une nation. Une politique mémorielle, comme le disait Pierre Nora, sert si par cas vous l'instillez pour établir un récit national. Si par cas il est là pour commémorer, uniquement pour commémorer, ça ne sert à rien. Il faut établir un récit national et je pense que ça doit être le sens du 8 mai. Et à ce moment-là, je pose la question sur pourquoi l'utilité de Jean Moulin spécifiquement. Je pense qu'il y avait d'autres figures qui correspondaient plus à un moment qu'on rencontre
actuellement. Jean-Yves Le Borgne.
Pour moi, le récit national, il est fondamental parce qu'il est la nation et que les grands moments qui sont parfois d'ailleurs des moments tragique. Et bien évidemment, les années 40 étaient un moment de tragédie très forte. Ce sont des moments où un certain nombre d'hommes et de femmes révèlent leur capacité à dépasser le train-train, à dépasser le quotidien, à prendre des risques extraordinaires, voire à donner leur vie pour une cause. Et voyez-vous, je pense que dans le monde que nous vivons, qui est le nôtre depuis pas mal de temps, vous parlez des retraites, j'aurais tendance à dire ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, si, ça a à voir d'une manière contradictoire. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, le souci, c'est mon confort, c'est mon point de vue, c'est mon aisance, ma vie quotidienne. Mais il n'est pas du tout anormal que face à cette sorte d'égoïsme qui est même assez étroit, assez limité, on dise « il y a eu ». Dans notre histoire, hier, il n'y a pas si longtemps, des hommes et des femmes qui sont morts pour une idée, qui ont sacrifié leur vie pour une cause, je trouve que ce n'est pas une commémoration, ce n'est pas simplement une idée, tiens, tu te souviens, en 40... Non, c'est une sorte de doigt pointé sur l'avenir, l'héroïsme, la France en a encore besoin.
Le 8 mai, derrière, le 9 mai, à Moscou, alors là, c'est une autre histoire, William T.
C'est une autre histoire, mais c'est pas évident avec le contexte actuel. Moi, je trouve qu'on a eu tendance, du côté de l'Europe occidentale, à sous-estimer, à dévaluer le rôle qu'ont joué les forces russes lors de la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment qu'à certains moments, les chefs d'État d'Europe de l'Ouest auraient dû se rendre à Moscou pour rendre hommage à la victoire des Alliés. Donc la victoire des forces russes, notamment à Stalingrad, et sur le côté du front de l'Est, sans lequel ça aurait été très compliqué de pouvoir débarquer. Le problème de l'actualité récente, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, c'est compliqué quand même de faire la part des choses. Et on ne peut pas se rendre et donc soutenir ce point-là sans prendre en compte le contexte actuel qui est notamment la volonté de Vladimir Poutine à avoir un succès fort qu'il a eu à Bakhmout. Maintenant, le point essentiel qui se pose, c'est la perspective. Quel discours il va tenir et en quel lien par rapport à ce qu'il va faire? Je pense vraisemblablement qu'il va rappeler qu'ils ont eu un succès militaire important avec Bakhmout. Ils vont rappeler qu'en fait, ils ont quand même eu des avancées, si on prend la perspective de ce qui s'est passé il y a un an, en termes de conquête territoriale. Ils ont pris le Donbass, ils ont pris le Sud, ils ont fait un pont jusqu'à la Crimée. Et qu'ensuite, ils se préparent pour la grande offensive de printemps, notamment avec sa mobilisation partielle qui lui permet d'avoir des troupes supplémentaires. Mmh. Et la question que je pose en termes de perspective, c'est est-ce que le récit fait par les médias occidentaux, je ne dis pas un média particulier, mais généralement, est-ce qu'on n'a pas surévalué les forces de l'Ukraine alors qu'on les avait sous-estimés au début du conflit, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à les surévaluer maintenant?
En mode, ils vont se débrouiller tout seuls?
En mode, déjà, un, ils vont se débrouiller tout seuls, et deux, on a une impression, c'est que l'Ukraine va gagner. Alors que quand on regarde les ressources militaires sur le terrain, je ne vois pas sans aide supplémentaire de l'OTAN, comment ils vont faire pour pouvoir maintenir et surtout pouvoir contenir l'offensive russe.
Enfin, l'OTAN, c'est une aide, j'allais dire, par palier. Donc là, c'est pas fini, hein, ce qui arrive.
Bah, moi, je pense que Biden a donné des clés qui sont inquiétantes en fin d'année après
midterm. Tout se décide à Ramstein, vous savez, sur la base américaine. Oui. Hein, donc, évidemment. Jean-Yves Le Borgne.
Lorsqu'on a comme arrière-fond, comme base, comme référence, des éléments profondément et sincèrement démocratiques, l'héroïsme est un moteur extraordinaire. Lorsque l'on est dans la défense d'un pouvoir fort qui capte toutes les capacités de décision, bref, disons-le, d'une dictature, la victoire est un besoin pour demeurer. La victoire est une sorte de justification pour que le peuple voit dans le dictateur celui qui est le porteur de cette victoire. Et je pense que, s'agissant du 9 mai, c'est un peu cette idée. Certes, la Russie, qui s'appelait l'URSS, est venue à l'aide des puissances occidentales et notamment des Américains, ce qui a permis, comme vous le disiez, William Tay, tout à fait à juste titre, le débarquement sur les plages de Normandie. Mais était-ce au nom de la démocratie? Bien évidemment non. De telle sorte que le vrai problème, c'est que l'héroïsme doit être quelque chose qui doit être cultivé. La victoire est quelque chose d'enviable, mais tout dépend au service de quoi. C'est la raison pour laquelle je regarderai le 9 mai avec une certaine vigilance.
Oui, et en attendant, c'est pas le 9 mai, c'est pas Poutine, c'est le visage assez terrifiant de Prigojine qui défile sur les images. Faut-il s'inquiéter? Je demandais tout à l'heure à Jean-Dominique Giuliani si c'est de l'instabilité qui rajoutait à l'instabilité, William T.
Je pense que ce qui est compliqué pour nous à comprendre maintenant, le fait qu'on ait coupé les liens avec la Russie, c'est quel est l'équilibre des pouvoirs internes au régime russe. On dit souvent Poutine décide tout seul, mais c'est rarement le cas. Même dans une dictature, vous avez des équilibres, des clans, des forces. Ce que je ne comprends pas, c'est quel est l'équilibre, l'ancien équilibre. Est-ce que l'ancien équilibre qu'on avait en tête au moment de l'ouverture du conflit est toujours le même? Est-ce que c'est toujours la bande des quatre qui gouverne? Est-ce que vous avez un équilibre aussi fort en termes entre les renseignements, l'armée ou le parti, Russie Unie, si je ne me trompe pas? Et ce fait, quel est l'équilibre en fait entre les différents points de l'administration de Poutine et qui dirige et qui a une force sur qui? Je trouve que Wagner en fait a réussi à prendre une place de plus en plus importante dans la politique étrangère russe et pas uniquement dans la politique de défense, notamment depuis la guerre en Syrie. Et en fait, ils ont réussi à accroître leur importance. Et là maintenant, ce que lui joue, est-ce qu'il ne joue pas notamment un point, je vais mettre un parallèle, est-ce qu'ils n'essayent pas de jouer le même rôle que Rassem Soleimani avec l'Iran, avec les gardiens de la Révolution? Est-ce qu'ils n'essayent pas de jouer ce rôle-là, qui est de grands héros de la Russie, et notamment en montrant qu'il défend ses hommes, ses troupes, etc. Parce que Wagner n'est pas l'armée régulière, ce sont des mercenaires. Donc si par cas il ne défend pas ses troupes ne se battront pas beaucoup plus loin et n'arriveront pas jusqu'à Kiev.
Ça, c'est le principe du mercenaire, c'est-à-dire qu'il peut se retourner contre vous si jamais vous ne lui payez pas ou vous ne lui donnez pas
les munitions
que vous voulez, Jean-Yves Le Borgne.
Je crois déjà qu'il faut souligner le caractère extraordinaire au constat de l'existence d'un groupe privé chargé de missions militaires. C'est quelque chose d'ahurissant. Je ne crois pas qu'il y ait un seul pays au monde où aujourd'hui on voit encore ça. Ça rappelle un peu les rivalités féodales où les grands barons levaient des armées pour combattre le pouvoir royal qui, pendant longtemps d'ailleurs, tout roi qui ait été celui qui était supposé gouverner la France, était dans une position de fragilité parce que le duc de Bourgogne où les mouvements d'Aquitaine menaçaient le pouvoir central. On a là quelque chose. Alors, je dirais, s'agissant de la Russie...
Les Italiens s'en souviennent plus tôt que nous, puisque c'est encore plus récent chez eux.
Bien sûr. À la limite, c'est presque intéressant en ce sens que quand un pays est morcelé dans des pouvoirs de cette nature, ça veut dire que le pouvoir central l'est moins. Jusqu'à présent, on nous a toujours monté Prigojine comme étant l'exécutant des volontés de Poutine. Si d'aventure c'était le contraire, si l'un pouvait neutraliser l'autre, si l'un pouvait affaiblir l'autre, au fond, peut-être serions-nous, malgré des circonstances peu flatteuses, néanmoins dans une voie favorable à la paix.
Oui, mais enfin, vous ne pouvez pas les mettre quand même sur le même niveau, Prigojine et Poutine.
On se le demande. On se le demande.
Je pense que c'est un exécutant, puisqu'on parlait d'exécutant tout à l'heure.
Alors, je pense que dans un premier temps, il a indiscutablement été l'exécutant d'un certain nombre de visées de politique étrangère de Poutine. Je pense notamment à ce qui a été fait en Afrique par les troupes de Prigogine. Mais aujourd'hui, cette sorte de morgue avec laquelle il exige notamment des armes pour pouvoir accomplir cette fonction, ça me paraît être le moment où l'exécutant, ça arrive souvent en matière militaire, devient tellement fort que le politique est obligé de lui dire oui.
William T.
Moi, c'est pour ça que j'ai comparé à Soleimani avant son décès en 2020, parce qu'il était pas plus puissant, mais il était au moins au même niveau quasiment que l'ayatollah Khamenei. Et donc, du coup, est-ce qu'on n'est pas sur le même type de relation entre un chef très fort, une incarnation, et avec un exécutant, en tout cas un bras armé, qui peut, en tout cas publiquement, demander. Et on ne connaît pas les raisons, en fait, publiques. Est-ce que c'est parce que Poutine, ça l'arrange, qu'il demande, notamment pour privilégier les munitions, parce qu'ils n'ont pas un stock infini de munitions, donc c'est privilégier les munitions à destination de Wagner plutôt que son armée régulière. Est-ce que ce n'est pas un conflit entre l'armée régulière et Wagner? Est-ce que c'est uniquement pour justifier ce type d'échange? Est-ce que c'est un conflit entre le ministère de la Défense et le ministère du Budget? Enfin, il y a toute une équipe de
quoi on n'est pas au courant. Il faudrait voilà. Mener une investigation qui est difficile à faire.
Et on ne l'aura pas.
Évidemment,
on l'aura pas.